France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un géant du cinéma mondial. Et le mot n'est pas exagéré. Il est à Paris à l'occasion de l'exposition événement que lui consacre en partenariat avec France Inter, la Cinémathèque française. Exposition qui ouvre ses portes demain jeudi. Dialoguez avec lui au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. James Cameron, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. Nous vous avions reçu en 2022 pour Avatar, la voix de l'eau, succès mondial, comme bien d'autres dans la liste inouïe des films que vous avez réalisés, les Terminator, Aliens, Abyss, Titanic, c'est vertigineux à quel point vous avez marqué l'imaginaire des spectateurs du monde entier. Cette exposition de la Cinémathèque, l'art de James Cameron, nous permet en quelque sorte d'entrer dans l'atelier d'artiste, de l'artiste que vous êtes, de voir comment s'élaborent vos films, mais aussi de comprendre quelle est votre vision du monde, de vos dessins d'enfant à vos films. Cette exposition est aussi une forme d'autobiographie. Qu'avez-vous éprouvé en la visitant, en vous voyant vous-même au musée?
Well, when I first saw the exhibit, I was
quand j'ai vu l'exposition pour la première fois, j'étais frappé de voir que c'était en fait une autobiographie de mes propres idées depuis le départ, lorsque j'étais gamin au Canada.
Et
j'ai grandi en me nourrissant de science-fiction littéraire, mais également de bande dessinée, Marvel en particulier, toute la série DC, et puis tous ces artistes de Marvel des années 60. On va savoir que vous êtes fan de cette période, Spider-Man et compagnie, et les Fantastic Four. Mais je ne voulais pas simplement être spectateur, je voulais créer moi-même, je voulais dessiner, je passais mon temps à dessiner, à écrire un petit peu, mais surtout à dessiner, peindre également.
Et
ce que l'on voit dans l'exposition, quand on la parcourt, c'est l'évolution des idées qui partaient d'idées un petit peu juvéniles lorsque j'étais gamin, mais certains thèmes récurrents, la relation à la technologie, mais également à la nature, les forces destructrices qui agissent, qui sévissent sur la planète. Alors, vous avez peut-être de belles images, mais également des idées un peu dystopiques.
Plus de 300 œuvres originales sont présentées dans cette exposition. Il y a des dessins, il y a des pastels, il y a des peintures. On découvre effectivement que vous êtes un excellent dessinateur depuis l'enfance. Vous savez très bien dessiner. On voit également des accessoires, des costumes, des photographies, des films. Du robot tueur de Terminator à la planète Pandora d'Avatar, en passant par le naufrage spectaculaire de Titanic, vous avez forgé, James Cameron, des images que personne n'a oubliées ici. Juste, on le rappelle, Avatar, c'est le numéro 1 du box-office mondial. C'est le film le plus vu de tous les temps. Avatar 2 est le troisième du box-office mondial. Et le quatrième, c'est encore vous, c'est Titanic. Mais ce qui est très marquant dans cette exposition, c'est ce que vous nous disiez là. C'est-à-dire que tout remonte à l'enfance, à ce gamin que vous étiez au Canada, dans un petit village du Canada. Et comment toutes ces idées qu'on voit ensuite dans vos films, elles ont émergé dans l'enfance, chez ce petit gamin. Quand on voit les dessins d'enfance, il y avait déjà tout. La science-fiction, il y a déjà les robots, il y a déjà la planète qui est menacée, il y a déjà tout ça.
Mais
j'aurais même pas pu m'imaginer que je me trouverais un jour ici dans ce studio à échanger avec vous. J'ai grandi dans un petit village, effectivement, au Canada, où, disons, l'horizon était assez étroit, mais l'imagination n'avait pas de limite. Parce que quand on lit, quand on fait partie un petit peu du dialogue mondial sur la technologie, notamment dans les années 60, c'était l'époque où, justement, je faisais beaucoup de ces dessins dans les années 60 et également 70. Les idées que vous voyez dans mes films viennent effectivement de cette période. Les robots, les planètes, tout l'imaginaire, toutes les images viennent en grande partie de mes rêves. C'est ça qui est intéressant, ces dessins, ces œuvres avaient été inspirés par mes rêves. Je faisais un rêve et en me réveillant tout de suite, je faisais un dessin, une esquisse. Et alors vous avez les forces bioluminescentes d'Avatar, ça vient d'un rêve. Et d'ailleurs, on voit un croquis dans l'exposition. J'y pensais pas, bien sûr, quand j'avais 19 ans, mais l'imagination peut vous emmener partout dans ces immenses projets cinématographiques où l'on exprime ses idées été, disons, imagé à travers le cinéma. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de peindre et dessiner parce que j'étais en mesure de travailler avec les meilleurs artistes du monde. Je me débrouille pas mal, mais je ne suis pas un immense artiste quand même. Mais disons que j'ai commencé à m'intéresser davantage à la toile cinématographique, la peinture de la lumière.
Terminator, qui est votre premier gros succès, James Cameron, vous êtes apparu aussi en rêve. On voit dans l'exposition le dessin d'un robot humanoïde en flamme. Et cette image, dites-vous, vous est venue donc de manière onirique. J'étais fauché, je suis tombé malade à cause de la fièvre. J'ai rêvé d'un squelette en chrome qui émergeait d'un mur en feu. L'image mentale, donc l'image de science-fiction, précède l'histoire chez vous.
Cette image que vous évoquez d'un squelette en chrome qui jaillit en feu est venue effectivement de cette période. J'étais très fiévreux, j'étais dans un état, je rêvais à moitié, je délirais, et j'ai vu cette image et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait créer cette angoisse? On est dans les années 80 à l'époque, et c'était en fait la pointe de la guerre froide. Il y avait plus de missiles dans le monde qu'il n'en avait jamais eu. Maintenant, il n'en reste qu'un dixième de ce qu'il y avait à l'époque, c'est vous dire. Donc c'était vraiment une idée très, très présente. Et donc cette image de mort, de squelette, de feu, je les ai réunis autour de cette notion de destruction nucléaire. C'est de là qu'est venue l'idée de Terminator, mais il fallait autre chose, il manquait quelque chose. Et c'est là que j'ai ajouté l'intelligence artificielle. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. C'était les machines intelligentes, ou l'intelligence des machines. Mais j'avais peut-être un peu d'avance sur mon temps, parce que en fait, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train de digérer tout cela.
Mais oui, c'est ça qu'on voit dans cette exposition. C'est combien vous aviez la prescience déjà, enfant, à 8 ans. Vous racontez combien la crise des missiles de Cuba, vous parlez de la guerre froide, vous racontez combien la crise des missiles de Cuba vous a marqué quand vous avez 8 ans, où votre père avait mis sur la table basse des guides expliquant comment on construit un abri anti-atomique si jamais les Russes nous envoient un missile. Et véritablement, cette enfance dans la guerre froide, cette enfance au milieu de la menace, a construit votre imaginaire, a construit ce qu'on va voir ensuite. Évidemment, il y aura l'intelligence artificielle aussi et la science-fiction, mais il y a la politique violente qui construit l'imaginaire de cet enfant.
Help me with the last part.
Là, c'est la traduction, parce qu'il a à peu près compris. Il ne voulait pas la traduction sur toutes les premières questions.
I'm still a child.
Je suis encore un enfant. Donc, ma propre imagination.
You can imagine the answer.
Enfant, c'est ce qui me motive aujourd'hui. Alors, quand j'étais gamin, j'imaginais toutes sortes de choses. Je lisais de la science-fiction, mais la science-fiction, ça n'est pas simplement des futures utopies, des voitures volantes et que sais-je. Non, c'est toutes les façons dont l'être humain interagit avec la technologie et peut aboutir à la destruction de la planète. Donc j'avais ces thèmes assez sombres. Mon papa, effectivement, avait des brochures sur la façon de construire des abris anti-atomiques pendant, en particulier, la crise des missiles de Cuba. Donc toutes ces idées se sont exprimées à travers mes œuvres d'art. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas tellement changé, mais mon opinion n'a pas vraiment bougé. J'ai une idée très sceptique des gouvernements, une opinion très pessimiste de l'avenir de l'humanité, mais par contre, la capacité qu'a l'homme de résoudre les problèmes, la compassion, ça j'y crois. Et donc, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, je ne suis pas futurologue, je ne suis pas Nostradamus.
Vous n'êtes pas Nostradamus, mais vous êtes très pessimiste.
As a parent, it's my
en tant que parent, mon rôle, c'est d'être au contraire optimiste. Mais tout ce que je lis me dit qu'on a de très très gros problèmes devant nous qu'il va falloir régler.
Est-ce
du pessimisme? Je ne sais pas. Peut-être que c'est simplement du réalisme.
Vous êtes très dur sur la politique, James Cameron. On peut lire dans le catalogue de l'exposition. Je vous cite. Pendant 10 ou 15 ans, j'ai réellement cru que les systèmes politiques pouvaient apporter des résultats positifs. Mais aujourd'hui, comme à 17 ans, je suis persuadé que tous les politiciens sont des connards et qu'on perd notre temps en traitant avec eux à moins de descendre dans la rue pour leur renvoyer leur gaz lacrymo à leur figure, à la figure, pardon. Vous en êtes là, James Cameron? Vous n'avez vraiment plus du tout confiance dans la politique?
I have zero faith in politicians.
Non, aucune confiance dans la politique. Zéro, zéro, zéro. À mon sens, les hommes politiques ne font que ce qu'on leur dit de faire. J'ai confiance, par contre, dans l'humanité. Je pense que, je crois à la compassion humaine et sa capacité à exiger ce qu'il faut. Mais actuellement, le processus politique dans la plupart des pays, et certainement aux États-Unis, où j'ai longtemps vécu, maintenant je vis en Nouvelle-Zélande, ce processus politique a été détourné par des gros intérêts, par les lobbies, par l'industrie et que sais-je. Et donc, ça n'est que lorsque le peuple se révolte et dit il nous faut changer nos relations internationales, il faut changer notre attitude par rapport au changement climatique. Donc je suis tout aussi pessimiste que quand j'étais gamin dans les années 60, on le voit à travers mes œuvres d'art, dans l'exposition qui dit qu'on fait face au risque de destruction nucléaire, mais également de destruction climatique, environnementale. De ce point de vue-là, je n'ai pas beaucoup changé. Mais où j'en suis maintenant, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste cinématographique, c'est que je crois quand même au cœur humain, sa capacité à voir l'autre, à voir éprouver la compassion envers l'autre. Donc il y a encore de l'espoir.
Il y a encore de l'espoir, et ça, on peut le voir vraiment dans Avatar. Comment vous avez de l'espoir dans les humains, pas dans la politique, dans les humains. Mais est-ce que vous suivez quand même l'actualité politique? Est-ce que vous suivez ce qui se passe aux États-Unis, l'élection présidentielle aux États-Unis, le possible retour de Donald Trump? Ou est-ce que vous fermez les écoutilles et vous ne vous consacrez qu'à l'art, qu'à vos dessins, qu'à vos films? Ou si vous restez branché sur l'actualité, même si vous êtes pessimiste?
Well, look. We're coming up in the U.S. Now, remember,
écoutez,
I don't live
alors,
in the U.S.
Rappelez-vous, je n'habite plus aux États-Unis, mais enfin, j'ai une activité, j'y ai vécu quand même pendant 45 ans. Donc, effectivement, l'élection présidentielle, c'est quelque chose d'un petit peu décourageant. Enfin, pour moi, quand je vois toutes les réalisations de l'humanité, toutes les gens, toutes les personnes incroyables, et puis on se retrouve avec ces deux bons hommes qui sont censés représenter la nation la plus puissante de la planète, c'est lose-lose. Une défaite est peut-être pire que l'autre, mais pas tellement pire. Moi, je suis sûr que le monde nous regarde avec horreur en voyant l'absurdité de la chose, mais c'est pas tellement mieux ailleurs. Donc, je ne pratique pas la politique de l'autruche. Je regarde ce qui se passe. J'essaie de voir ce que les façons d'être utiles, de pouvoir aider quand même.
Depuis vos débuts, vous alertez sur la menace que les hommes font peser sur notre planète. Avatar est une fable écologique. Vous avez cette très belle phrase, vous dites « Avatar est un film où l'on pleure pour un arbre ». Vous pensez que, si la politique ne peut pas le faire, le cinéma peut éveiller les consciences ?
C'est
quand même important quand on est artiste, quel que soit l'art, quel que soit le support, que ce soit la littérature, la télévision, la peinture, la sculpture, le cinéma, donc, tous ceux qui s'expriment dans le monde doivent, à mon sens, doivent créer, disons, un mouvement et dire, voilà, il nous faut changer, il nous faut bouger, il faut nous améliorer en tant qu'êtres humains, et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes films. Dans les films Avatar, il ne s'agit pas d'extraterrestres bleus qui sont contre les hommes, contre les terriens. Ce sont les êtres bleus qui représentent le meilleur de ce qu'il y a en nous pour se battre contre ce qu'il y a de pire en nous. Et vous avez tout ce qui est cupidité, le monde des affaires un petit peu corrompu, et là, contre un monde qui voudrait s'améliorer. Pandora est un beau monde, mais nous avons une belle planète ici, une belle planète que nous détruisons à un rythme incroyable. Donc c'est ça, les thèmes que l'on traverse, qui étaient présents lorsque j'étais gamin, quand j'ai commencé à faire des films, et maintenant je vois encore la même chose.
On va passer au standard de France Inter, James Cameron, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent dialoguer avec vous. Bonjour Simon Pierre.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci, je pensais pas qu'un jour je pouvais à la fois féliciter France Inter pour la qualité de ses émissions et James Cameron pour l'immensité de son œuvre. Alors, ma question est la suivante. Dans dans tous les films de James Cameron, il y a une femme extrêmement forte et au cœur du cinéma des années 80-90, face à Bruce Willis, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, on avait des femmes qui non seulement étaient l'égale des hommes, mais étaient carrément supérieures et c'est arrivé à se sortir de situations catastrophiques avec grand succès. Je voulais savoir d'où venait son inspiration à ce sujet.
Merci beaucoup Simon Pierre. James Cameron vous répond sur ses personnages féminins.
About your female characters.
Yeah. So Simon, thank you for that question.
Simon, merci pour cette pour cette question.
Moi,
quand j'étais gamin, je voyais toujours un déséquilibre dans la vie, mais il y avait un équilibre dans ma propre vie. Ma maman était une femme très compétente, mais au cinéma, la femme c'était la copine, c'était l'épouse, mais c'était le mec qui était au centre de l'histoire. Et dans les années, à la fin des années 70, il y a eu quelques exemples intéressants. Sigourney Weaver dans les films de Ridley Scott, Alien. Je me suis dit, ça devrait être plutôt comme ça. Et quand j'ai écrit Terminator, et j'ai pensé à Sarah Connor, et puis, ce qui est dingue, c'est que j'ai eu la possibilité de réaliser la suite d'Alien avec Sigourney Weaver. Et là, les gens ont commencé à réagir. Les films, d'ailleurs, ont bien marché. Et Hollywood s'est dit, un instant, mais on peut faire un film avec un personnage principal féminin où la femme est intelligente, c'est elle qui est le personnage central, qui maîtrise le jeu. Et c'était un électrochoc pour tout le monde. Tout le monde s'est réveillé en voyant cela. Et j'ai persisté dans cette voie. Et à ce jour, j'estime que c'est quand même l'énergie féminine dans la race humaine qui va sauver la race humaine. Ça n'est pas le mâle compétitif, agressif. C'est l'énergie féminine qui peut se manifester dans un corps masculin ou féminin. Et il y en a qui n'ont pas du tout cette énergie, mais essentiellement ça viendra de cette capacité à être en relation avec l'autre, à coopérer, à travailler ensemble, à œuvrer ensemble, et c'est finalement le sens de la vie tel qu'il s'exprime à travers ce que j'appelle l'énergie de la déesse.
Vous en avez entendu, Nicolas.
Ah, mais j'ai pris des notes même. Christophe est au Standard d'Inter. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup de prendre ma question, monsieur Cameron. Juste deux questions. Comment vous voyez l'avenir de l'intelligence artificielle que vous avez tant mis en avant dans la série des films Terminator? Et est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez cet outil pour créer, imaginer vos prochains films?
Merci beaucoup Christophe. James Cameron vous répond.
Christophe, cette question est importante, elle est tout à fait d'actualité, elle est sur toutes les lèvres. Quel avenir nous réserve l'intelligence artificielle? Par rapport à cela, je suis à la fois optimiste et pessimiste, parce qu'à mon sens, il y a un risque réel pour l'humanité quand on crée une intelligence supérieure à celle de l'homme et qu'on essaie de la maîtriser, qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Cette intelligence pourrait être instrumentalisée, transformée en armes. Enfin, l'exemple plus typique, c'est l'énergie nucléaire qui était au départ civile et qui est devenue une menace terrible. Mais en même temps, l'intelligence artificielle peut faire des choses remarquables en médecine, en créativité. On peut construire un meilleur avenir grâce à ces outils d'intelligence artificielle. Je ne me sers pas d'intelligence artificielle générative, celle qui crée ça. Non, on ne s'en sert pas, on ne s'en est pas servi pour Avatar, on ne s'est pas servi d'intelligence artificielle pour créer les images. C'est les hommes qui créent les images, les ordinateurs peuvent les réaliser, et on a un précurseur, si vous voulez.
Donc dans 10, 20 ou 30 ans, il n'y aura pas une intelligence artificielle qui remplacera James Cameron. On aura toujours besoin de James Cameron.
Well, look, I think it should be market-driven.
Écoutez, c'est quand même le marché qui en décidera. Si l'intelligence artificielle était capable d'écrire un scénario et que ça marchait et que le movie marchait, pourquoi pas?
En parlant de votre caractère et de prendre son risque, quand vous pitchez Terminator à votre agent, il vous dit « Très mauvaise idée, n'écris pas ce truc-là » et vous dites « Heureusement, j'ai senti qu'il avait tort et je l'ai ignoré. » De manière générale dans votre vie, et ça on le voit bien dans l'exposition, vos idées d'enfant, vos rêves que vous transcrivez le lendemain, vous les faites. Et un non, quand on vous dit non, et vous le faites quand même.
Il
faut quand même écouter les avis de tout le monde. Mais si ce qu'on vous dit fait écho à vos propres doutes, alors effectivement, il faut en tenir compte. Mais si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous paraît complètement faux, instinctivement, vous dites que c'est faux, il ne faut pas le suivre parce que les films, ce sont des œuvres, disons, d'équipe, des œuvres collaboratives. Je travaille avec beaucoup de gens qui sont eux-mêmes des artistes, j'écoute ce qu'ils ont à dire. Mais par exemple, si quelqu'un du studio qui finance le film me dit quelque chose les gêne, qu'il me gêne aussi, bon, ben là, je réglerai le problème. Mais si l'on me dit quelque chose qui n'a, à mon sens, aucun rapport avec ce que j'essaie de dire ou de faire, je leur dis avec tout le respect que je leur dois, je vais faire les choses telles que je les vois. Et c'est là où j'en suis actuellement. Ça me paraît quand même une bonne façon de travailler.
Beaucoup d'interventions d'auditeurs, je le redis, sur l'application de France Inter. Margot vous dit la chose suivante. Vous êtes l'un des derniers cinéastes à allier le grand cinéma qui innove et marque l'histoire avec le cinéma populaire qui rassemble. Est-ce que ça vous va comme description de ce qu'est peut-être votre ambition artistique?
Well, Margot, that's very kind. Margot, I appreciate your kind words.
C'est très gentil ce que vous dites. Il y a quand même beaucoup de jeunes cinéastes qui ont beaucoup de talent, qui travaillent dans un monde qui a beaucoup changé et leur voix reste parfaitement d'actualité. Moi, je viens d'une autre génération où à Hollywood, on essayait d'arriver à un consensus, on voulait fédérer les gens autour de nos films. Alors, ça ne fait pas de nos films des films, disons, génériques, mais dans mes films, en tout cas, j'essaie d'arriver à des valeurs universelles de l'être humain, des valeurs familiales, l'amour, dans les films Titanic, Avatar, on parle d'amour, dans le second Avatar, c'est l'amour familial, mais ce qui compte, c'est les voix, les jeunes voix artistiques qui parlent, qui sont d'actualité, avec les problèmes d'actualité, et il faut également écouter ces voix-là, il faut leur donner une plateforme.
Alors on va donner la parole à Santiago. Bonjour Santiago.
Bonjour.
Tu as 8 ans.
Bonjour Santiago.
Alors dis-nous, de quoi veux-tu parler avec James Cameron?
Moi j'ai vu la première partie du film du Titanic et j'adore et je voulais savoir comment vous avez réalisé le film.
Oh là là.
Oh, c'est tellement mignon.
Comment vous avez eu l'idée?
Et comment il a eu l'idée. Et puis il faudra que tu vois un jour la deuxième partie, malheureusement. Santiago, merci beaucoup d'avoir téléphoné. James Cameron te répond.
I'm always happy to do a sequel to any one of my films.
Je pourrais faire une suite pour tous mes films. Enfin, pour Titanic, c'est pas sûr. On pourrait faire une prequel Jack et Rose avant la rencontre ou la construction du navire. Enfin, ça ferait peut-être pas un film très intéressant. Alors écoute Santiago, moi ce qui m'a fasciné dans le Titanic, et tous les jeunes ressentaient un petit peu la même chose, c'est que c'est quand même une histoire absolument incroyable, la destinée de ces passagers, ces gens qui ont dû se sacrifier, mettre les enfants dans la chaloupe et en se sacrifiant eux-mêmes. Et Santiago, à 8 ans, moi, quand j'avais 8 ans, je voyais quand même là-dedans une histoire quand même assez mystérieuse. On apprend à être de jeunes gens, on voit ce qu'est notre rôle en tant qu'adulte, on doit protéger les autres, les enfants.
Et vous avez plongé, vous êtes allé voir le bateau, le Titanic, vous plongez souvent. Là aussi, il y a le rêve et la réalité qui se mélangent. Ça a été aussi le cas pour Abyss, la plongée sous-marine. On n'a pas le temps d'en parler, malheureusement, parce qu'il y a tout un travail de documentation pour faire vos films. Mais je suis obligée de vous poser la question de Caroline, puisqu'on est sur Titanic. Caroline qui vous pose la question en anglais, puisqu'elle parle anglais, manifestement, sur l'appli d'Inter. Why did you make Jack die? Pourquoi vous avez fait mourir Leonardo DiCaprio? Pourquoi vous avez fait mourir Jack? C'est le drame de ma génération, dit-elle.
So, Caroline, if you
écoutez,
know,
Caroline, si,
dramatic literature,
si vous suivez un peu la littérature dramatique, pensez à Roméo et Juliette. Alors, 500 ans plus tard, on se réveille, mais dans Roméo et Juliette, les deux meurent. Ici, il n'y en a qu'un seul des deux. Enfin, pour raconter l'histoire de Titanic, s'il n'y avait pas de fin tragique, ça aurait été un Hollywood ending, un happy end auquel personne ne croirait. Alors on peut en parler toute la journée, est-ce que elle aurait pu hisser Leonardo à bord de sa petite planche. Enfin non, il y a ce sacrifice de Jack pour Rose. C'est quelque chose de très symbolique parce que dans toutes les histoires d'amour, enfin, les bonnes histoires d'amour, il y a ce que je rappellerais un transfert d'énergie d'une personne vers l'autre, et là, Jack sacrifie sa vie pour elle, pour qu'elle puisse vivre et mener une belle vie. Et on le voit, elle apprend à piloter un avion, à faire toutes sortes de choses, et elle a vécu une belle vie grâce à ce sacrifice.
Mais Caroline ne s'en remettra pas, je pense, malgré tout. Merci infiniment, James Cameron, d'avoir été au micro d'Inter. Merci à Robert Wolfenstein pour la traduction. Et je rappelle donc cette exposition à la Cinémathèque, l'art de James Cameron en partenariat avec France Inter. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt.